Radio, l'émission sur la Loire et les rivières du bassin de la Loire. Du 15 avril au 15 octobre, l'Agence de l'eau vous consulte sur les orientations d'usage, le document le plus important en matière de gestion des cours d'eau. Chaque mois, SOS Loire Vivante vous informe afin de donner votre avis. Téléchargez le questionnaire sur sosloirevivante.org. Ensemble, prenons soin de l'eau. Sophie Toyer, vous êtes directrice du département sciences sociales, économie et gestion à l'école SUP Agro de Montpellier. Vous êtes spécialisée sur les questions liées à l'économie de l'environnement et de l'agriculture. Pourquoi observe-t-on une forte augmentation de l'irrigation en agriculture ces 30 dernières années ?
L'agriculture aujourd'hui, ça représente à peu près 50% des consommations nettes en France. Et en termes d'hectares irrigués, c'est quasiment 1,6 million d'hectares qui sont irrigués chaque année et principalement en plus de façon concentrée dans les zones sud-sud-est, sud-ouest et centre-ouest. Et on a observé parfois jusqu'à un triplement des surfaces irriguées dans ces zones-là, principalement en maïs. L'une des raisons de cette expansion phénoménale de l'agriculture irriguée, surtout en grande culture, c'est probablement l'effet incitatif des primes à l'irrigation qui ont été instituées donc par la politique agricole commune, la politique qui est gérée à Bruxelles pour l'ensemble des pays membres de l'UE et qui s'était réformée en 1992 pour passer d'un système d'aide aux agriculteurs par des prix garantis élevés, c'est ce qu'on a connu des années 60 jusqu'au début donc de ces années 90, donc des prix supérieurs aux prix mondiaux, à un système avec des prix moins soutenus, plus proches des prix mondiaux, mais compensé par des aides directes, donc versées directement aux agriculteurs, et qui étaient proportionnelles, au moins pour les grandes cultures, au rendement moyen du département, et non pas de l'agriculteur lui-même. Donc du coup, les irrigants se sont un peu insurgés contre ce système, en arguant du fait qu'ils avaient, eux, toujours des rendements plus élevés que la moyenne départementale, des coûts de production plus élevés, liés à leurs équipements d'irrigation, par exemple, et donc qu'ils souhaitaient obtenir des primes, des aides de soutien aux revenus plus élevées, ce qu'ils ont obtenu. Cette prime à l'irrigation, elle a été substantielle, elle a certainement contribué à accélérer l'augmentation des surfaces irriguées, principalement en maïs. Pour vous donner un ordre de grandeur, j'ai vérifié les chiffres, en 2003, ça représentait encore, cette prime à l'irrigation, presque 150 millions d'euros en France. Et face à ça, finalement, les dépenses pour protéger l'eau, elles sont plutôt de l'ordre de 100 millions d'euros, si j'additionne en gros, de façon annuelle, donc les dépenses des agences de l'eau et puis les aides du ministère de l'Environnement.
D'accord. Alors, finalement, l'agriculture est souvent accusée de contribuer à la pollution des eaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est appliqué le fameux principe pollueur-payeur au niveau de l'agriculture française et en particulier dans le cas de l'eau ?
Alors, d'abord, la pollution des eaux qui est induite par l'agriculture, elle est souvent liée aux excédents d'intrants, donc d'engrais ou de produits phytosanitaires, qui percolent dans les nappes ou qui sont lessivés dans les rivières. Et qui d'ailleurs entraînent des dégâts pour des usagers qui sont souvent situés très très loin de la source de pollution. On connaît bien l'exemple justement dans les Charentes et les ostréiculteurs. Et en plus, ces problèmes sont accentués par les prélèvements excessifs de l'agriculture, entre autres, qui ne permet pas de diluer suffisamment ces pollutions. Alors le problème, c'est que cette pollution d'origine agricole, elle est difficile à mesurer exactement, parce que finalement, elle dépend énormément des pratiques individuelles de chaque agriculteur et de sa localisation. Je vous donne un exemple. Si vous avez un agriculteur qui traite une parcelle avec un terrain en pente situé près d'une rivière, que le traitement s'effectue juste avant une pluie, vous allez avoir un effet en termes de pollution beaucoup plus néfaste que si le traitement a été relativement bien dosé, qui se fait sur un autre type de parcelle avec des sols différents et éloigné par exemple d'une rivière. Dans le deuxième cas, peut-être que même l'impact de pollution sera quasi nul. Donc du coup, on a beaucoup de mal à identifier la responsabilité individuelle de chaque pollueur, en tout cas de lier l'activité du pollueur, de l'agriculteur si vous voulez, au niveau global de pollution. Et ça, on parle de pollution diffuse, par opposition à une pollution ponctuelle où on pourrait mesurer exactement la responsabilité du pollueur. Par exemple, une entreprise, on peut mesurer ce qui se passe à la sortie du tuyau en termes de pollution. Alors du coup, c'est beaucoup plus difficile à contrôler et donc à sanctionner, donc à appliquer le fameux principe pollueur-payeur dont vous me parliez. Le principe pollueur-payeur, c'est le fait que les pollueurs doivent prendre en charge la réparation des dommages qu'ils infligent. En fait, souvent, on confond avec la taxe sur la pollution, qui est un petit peu différente, puisqu'il s'agit d'inciter le pollueur à réduire sa pollution, puisque ça lui permettra du même coup de réduire les taxes qu'il paye. Alors, dans le cas de l'irrigation, c'est les agences de l'eau qui appliquent ce principe, en prélevant des redevances pollution sur les usagers de l'eau. Elles le font sur l'industrie et les consommateurs urbains. Et effectivement, elles ne le font pas sur les agriculteurs. Peut-être justement parce qu'il est difficile de mesurer la responsabilité individuelle de chaque agriculteur à la pollution de l'eau en général. Bon, ça peut être une explication. Les autres explications sont plutôt d'ordre politique et de pression des syndicats agricoles. Donc en dehors des éleveurs intensifs, les agriculteurs ne payent pas de redevance pollution aux agences de l'eau. Et donc la seule redevance qu'ils payent indirectement, c'est celle qu'ils payent au titre de la taxe générale sur les activités polluantes, une taxe qui avait été imposée, mise en œuvre par Dominique Voynet lorsqu'elle était ministre de l'Environnement, et ils la payent sur les produits phytosanitaires qu'ils utilisent. En fait, ce n'est pas eux qui la payent, c'est les producteurs de produits phytosanitaires, et normalement, ces producteurs-là devraient répercuter cette taxe sur le prix de vente aux agriculteurs.
Oui, donc finalement, une façon de limiter l'utilisation des phytosanitaires polluants.
Oui, mais de fait, ça a eu un effet très 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 limité parce que ça ne s'est pas traduit par une augmentation forte des prix payés par les agriculteurs sur ces produits phytosanitaires. Et donc, il n'y a pas eu d'impact direct fort sur leur consommation de ces produits phytosanitaires.
D'accord. Il n'y a pas eu d'autres taxes, nitrates, phosphates.
Ce qui a été envisagé à l'époque donc de Dominique Voynet, pour qui la pollution agricole tenait à cœur, hein, c'était une taxe sur les nitrates, justement. Donc on avait envisagé de faire un bilan nitrate à l'échelle de chaque exploitation agricole, en comptabilisant finalement tous les nitrates qui pouvaient être appliqués sur les terrains agricoles et comptabiliser tous les nitrates qui pouvaient en sortir, être exportés sous forme de récolte par exemple. Et s'il y avait des surplus trop importants qui étaient appliqués, eh bien on voulait imposer une taxe sur ces surplus-là. Ça a été une longue bataille que Dominique Voynet a finalement perdue, je pense, contre les syndicats agricoles, et puis aussi sur le fait qu'à l'époque, l'agriculture avait une oreille attentive à l'Élysée.
Suvet arriva emäntä nouse, härjä katsomaan viitimä, ei männän viljaa kun ei tuskihin tulisi. Manutar maahan emäntä nostele, oras okinen kannon karvanen ylennä, kun ei tuskihin tulisi. Syöttele metisin syömin juottele, metisin juomin mesi heinin herkuttele, vihan nälmättä hällä.
Finalement, est-ce que prévenir les dégâts d'un manque d'eau ou d'une pollution de l'eau ne revient pas moins cher que de réparer ces dégâts ?
Souvent, c'est le cas. Je pense que maintenant, c'est la conclusion à laquelle enfin les pouvoirs publics commencent à arriver. Mais il a fallu du temps. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de lobbies derrière qui préfèrent investir dans la construction ou dans la réparation des dommages plutôt que dans la prévention. Cette évolution des mentalités, y compris chez les pouvoirs publics et l'administration, elle peut s'illustrer dans le cas de l'eau, par exemple, sur la protection des bassins d'alimentation de captage. Les bassins d'alimentation de captage, c'est les bassins versants dans lesquels, par exemple, il y a une source qui va permettre d'alimenter en eau potable une zone urbaine, par exemple. Et pendant longtemps, finalement, il y avait des périmètres dits de protection pour protéger un peu la source des pollutions, des activités situées autour, mais qui étaient fortement insuffisants. Et donc la réponse, c'était de dire, bon, eh bien, on va mettre en place des usines de traitement de l'eau pour la rendre potable, de plus en plus sophistiquées, donc de plus en plus coûteuses, voire même, on déplaçait, on allait chercher l'eau plus loin, plus profond, et donc plus cher. Avec la nouvelle loi sur l'eau, là, qui est sortie en décembre 2006, on essaye de mettre en place un programme de prévention, de protection de ces bassins d'alimentation de captage, et qui peut passer d'ailleurs par une subvention des agriculteurs de la zone pour les inciter à adopter des nouvelles pratiques. Alors ce sont des choses qui se sont mises en place avec un certain succès, par exemple à New York, qui a une source d'eau potable à 200 km à l'amont, et qui voyait cette source de plus en plus polluée. Plutôt que d'investir dans le traitement des eaux, ils ont investi dans le reboisement de cette zone-là, la protection de cette zone, pour maintenir la qualité de la source. Et ça marche plutôt bien. On a d'autres exemples ailleurs et je pense que la France commence enfin à s'en inspirer un peu.
La nouvelle PAC intègre-t-elle mieux les impératifs de préservation de la ressource en eau et d'atteinte du bon état des eaux ?
Oui, en partie. Je pense qu'on va plutôt dans le bon sens. Il y a eu d'abord ce qu'on a appelé un verdissement des aides versées aux agriculteurs. C'est-à-dire qu'en fait, désormais, les agriculteurs sont tenus de respecter la réglementation environnementale pour pouvoir obtenir l'intégralité des aides qu'ils sont censés toucher. C'est ce qu'on appelle la conditionnalité, que souvent certains traduisent par l'éco-conditionnalité des aides de la politique agricole commune. Et puis l'autre réforme de fond de la politique agricole commune, ça a justement été de réformer les aides agri-environnementales pour mieux les cibler, pour éviter cet effet de saupoudrage qu'on a beaucoup connu dans les années 90, qui était de donner un petit peu à tout le monde, finalement, pour soutenir le revenu. Et donc, justement, les aides maintenant sont concentrées sur des zones prioritaires, qui sont les zones pour lesquelles il y a des problèmes de pollution des eaux, et puis les zones Natura 2000, c'est-à-dire les zones où on veut, où il y a des enjeux de protection de biodiversité. Et puis, on va éliminer progressivement, enfin, je pense que ça va se passer comme ça, ces fameux effets d'aubaine dont je vous parlais, en réduisant le choix que les agriculteurs peuvent avoir sur les mesures qu'ils adoptent et en les ciblant davantage de façon à augmenter leur efficacité.
Cette émission vous est présentée tous les mois par SOS Loire Vivante avec le soutien de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Donnez votre avis. Téléchargez le questionnaire sur Internet. Ensemble, prenons soin de l'eau.